Europe 1.
Heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre avec un thème aujourd'hui, vous l'entendez tous déjà, un thème, disons-le d'emblée, un peu embarrassant pour mon camarade Stéphane Bern.
Mais non,
qui,
non.
Oui, alors on vous toussait déjà, on dirait tonton, enfin, pourquoi tu tousses, on dirait
tonton, sketch. Tu
ah oui, excusez-moi, comme
oui,
Jérôme.
Enfin, c'est le Suisse qui dit au Luxembourg.
Alors attendez, attendez, vous pourrez répliquer tout à l'heure, mais pour l'instant c'est moi qui ouvre l'émission Stéphane. Stéphane Bern, qui comme Jérôme Cahuzac en son temps pourrait vous jurer droit dans les yeux qu'il n'a aucun compte caché dans un paradis fiscal, encore moins dans un paradis fiscal qui s'appellerait le Luxembourg. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, voici une introduction savoureusement ironique. Quand on sait que vous êtes suisse, c'est
si
toujours
peu.
Porteur d'une étrange carte dorée de l'UBS.
Non,
je
non.
dis ça, je dis rien. Mais oui, cet après-midi, vous avez raison. On peut se permettre, tous les deux, de dénoncer trois personnages de l'histoire qui ont fraudé le fisc.
C'est de la délation, mais c'est bon.
En même temps, ceux dont je vais vous parler sont morts.
C'est vrai.
Donc si vous voulez, il y a
c'est
prescription.
C'est pas rétroactif, oui, effectivement.
D'abord Al Capone, celui qu'on surnommait Scarface, le balafré, le truand notoire, qui fut le premier ennemi public aux États-Unis, chef de la mafia de Chicago, qui a sévi pendant la Prohibition. Mais s'il est tombé, c'était pas pour ses crimes, c'est pour sa fraude, vous verrez. Puis plus surprenant, et pourtant vrai, des chercheurs gallois ont révélé que le génie de la littérature, quand même, William Shakespeare, avait aussi fraudé le fisc et grugé Sa Majesté Elisabeth Ière, la reine d'Angleterre. Quant à vous, Mathieu, c'est d'une fraude plus récente dont vous nous parlerez.
Oui, Stéphane, si vous fraudez le fisc en France, vous écopez d'un redressement, ce qui, comme dirait David, n'est pas cool. Mais en Chine, vous risquez carrément de disparaître. C'est ce qui est arrivé à l'actrice chinoise vedette Fan Bingbing, portrait d'une comédienne mais aussi d'un système qui ne plaisante pas avec la fraude fiscale, en espérant que nos chroniqueurs en tirent une leçon, à commencer donc par David Castello-Lopez, dont j'espère qu'il n'a pas été tenté de frauder les impôts.
Non, j'ai toujours hésité, je me suis dit, en fait, c'est vraiment le regard des autres qui m'en a empêché.
Et voilà. C'est tant mieux. Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour, comment ça va? Moi, je vais vous parler des origines de l'open space, hein, cet espace de travail où on est tous les uns à côté des autres et on se regarde, on se surveille.
C'est né, puis maintenant ça disparaît, oui. Parce qu'avec Covid,
exactement.
On a des plexis.
Oui.
Alors elle, voyez-vous, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde.
Oui.
Eh oui, elle connaît tout sur tout le monde.
Oui, oui bonjour messieurs.
Bah, attendez, ouais, j'ai pas dit votre nom.
Oh,
Clémentine
Bantier-Galtenmark.
On sait mon nom.
On sait
oh,
mon nom.
J'aime bien. Oh non, mais on sait que je souffre. On sait que je souffre à côté de vous depuis des mois là. Je fais l'objet d'une immense compassion.
Voilà.
Alors aujourd'hui, moi je vais vous reparler de Colette, mais de la Colette Cougar. Vous savez, Colette a tout essayé, elle a été mariée à un homme plus âgé, elle a vécu dans un ménage à trois, elle a eu une relation homosexuelle avec Mathilde Morny, et voilà maintenant, façon Catherine II avec Platon Zubov, qu'elle tombe amoureuse d'un jeune homme de 16 ans et demi, Bertrand de Jouvenel, dont elle vient en plus d'épouser le père.
Visiblement, ça choque beaucoup Olivier Pouls, notre belge puritain. Cher Olivier, chaque jour l'histoire d'une recette avec vous, une recette gourmande aujourd'hui, même si c'est un dessert qui ne plaît pas à tout le monde et vous le savez.
Bah et pourtant, les macarons, en ce moment, ça fait presque l'unanimité. Oh, je vois, Stéphane, tu fais une petite mousse.
Non, non, on en a marre
je suis,
des macarons.
Je suis Weight Watchers.
Et en Weight Watchers, c'est beaucoup trop de points,
dire que le macaron est à pas tout rire.
Mais Stéphane, apprenez à vivre le plaisir. Donnez-vous un peu de
écoutez,
joie.
Moi, le deuxième confinement m'a été fatal. Alors, soyez gentils. Hein. J'essaie
oui, soutenez-le au lieu de l'accabler avec votre macaron.
Eh bien, vous savez quoi, je mangerai toute la tournée des macarons que j'ai prévu. Tant pis pour vous.
Oui, pour ce que vous en avez apporté.
Ça devrait aller en termes
où
de
sont-ils
calories. On se rapproche du zéro. Enfin, sous couvert de plaisanterie, il y a peut-être quand même un fond de vrai à ce que j'insinuais tout à l'heure sur les pratiques fiscales borderline de Stéphane, car vous connaissez le dicton, qui fraude le quiz, fraude le fisc.
Oh
vers 5h-10, nous jouerons à Burn to be Alive, ce quiz dans lequel Stéphane a si souvent triché. Preuve qu'il sait quand il le faut s'affranchir de la légalité.
Mais hein, non, mais...
Nos amis de Bercy en ont la preuve. Hein, ils ont
je demande
l'émission.
À mon avocat d'intervenir immédiatement.
Oui. Mais tout de suite, découvrons un personnage qui, lui, s'est encore plus largement affranchi de toute forme de légalité. Stéphane Bern nous raconte Al Capone.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ce n'est évidemment qu'un symbole, mais il a le mérite d'être amusant vu son parcours. Alphonse Capone a fêté ses 21 ans, âge légal pour acheter de l'alcool aux États-Unis, le 17 janvier 1920, très exactement le jour où le fameux 18e amendement, celui de la prohibition, est entré en vigueur. Pendant presque 14 ans, de janvier 1920 donc à décembre 1933, l'Amérique est au régime sec. Il est interdit d'y produire ou d'y vendre toute forme de breuvage alcoolisé. Dès qu'on dépasse le seuil de 0,5 degré, autrement dit, même le cidre, c'est cuit.
Oh, même le cidre, ça c'est terrible.
Je trouve ça injuste, franchement. Évidemment, une bonne partie des Américains n'a pas la moindre intention d'arrêter de s'en jeter hein, derrière la cravate de temps en temps. Partout, les distilleries clandestines se multiplient. La nuit, à l'écart des habitations, des milliers de personnes distillent de l'alcool frelaté. La Moonlight Booze, un joli mot qu'on pourrait traduire comme la bibine du clair de lune.
Poétique avec ça.
Et un peu partout aux États-Unis, on voit apparaître des dizaines de milliers de bars clandestins, des speakeasies, enfin clandestins, à moitié clandestins pour être tout à fait juste. Les autorités ont tendance à fermer les yeux pour la bonne et simple raison que les élus et les policiers sont souvent les premiers à les fréquenter. Pour la pègre, la prohibition, c'est le coup du siècle. L'alcool devient le produit de contrebande le plus rentable. Chaque gang essaye alors d'élargir son territoire à grands coups de Thompson si nécessaire. Vous savez ce fusil mitrailleur avec son chargeur en forme de fromage ? Dans ce jeu de massacre, Al Capone fait rapidement figure de grand gagnant. Il est tout jeune, mais il est doué, intelligent, et il n'a pas peur de grand-chose, comme en témoigne son estafilade au visage. Souvenir d'un combat au couteau qui lui a valu le surnom de Scarface, le balafré. En quelques années, ce fils d'immigrés napolitains qui auront eu, lui compris, 9 enfants, nés à Brooklyn, gravit les échelons. D'abord dans l'ombre des grands noms de la pègre de Chicago, puis en plein jour. En 1925, il prend, à tout juste 26 ans, la tête de l'Outfit de Chicago, l'organisation qui réunit la plupart des familles de la mafia italo-américaine. Al Capone a sous ses ordres 1200 truands, et son influence sur la ville est à peine croyable. Des menaces aux petits services, de la corruption aux assassinats. Une chose est sûre, l'homme contrôle la métropole et peut soudoyer à peu près tout le monde dans la police ou à l'hôtel de ville. Les rares qui lui résistent finissent truffés de plomb et personne ou presque n'ose témoigner contre lui. À la fin des années 20, Chicago rappelle beaucoup Gotham City, la ville de Batman. Sombre, noire et corrompue jusqu'à la moelle, mais il n'y a pas loin de la roche tarpéienne au Capitole et Al Capone va commettre deux erreurs, Mathieu. La première, c'est qu'il n'est pas du genre à faire dans la discrétion. Il s'affiche partout, à l'opéra, dans les dîners mondains, dans les clubs les plus sélects, en quête de reconnaissance et de respectabilité. Il investit dans le Cotton Club, l'un des premiers grands clubs de jazz du pays, et il s'affiche avec les célébrités de son temps. Et ça, évidemment, ça attire l'œil. Sa seconde erreur, c'est le massacre de la Saint-Valentin. Le 14 février 1929, pour en finir avec la guerre qu'il oppose aux Irlandais de Chicago, Al Capone fait exécuter 7 truands d'un seul coup à la mitrailleuse dans un entrepôt de Chicago. Pour l'oncle Sam, la coupe est pleine. Trop violent, trop brutal, trop visible. En janvier 1930, Al Capone devient le premier ennemi numéro 1 de l'Amérique. Mais voilà, personne n'ose parler. Alors, le gouvernement américain change de stratégie. Puisqu'on ne peut faire tomber Capone pour ses crimes, eh ben, on va taper au portefeuille. Et puisque le FBI n'arrive à rien, on passe le bébé au trésor, autrement dit au fisc. Et là, surprise. Alors que Capone affiche un train de vie on ne peut plus luxueux, il ne déclare jamais rien aux impôts. Deux enquêteurs du trésor vont alors entrer en jeu. Le premier, tout le monde le connaît, c'est Elliot Ness, qui se concentre sur les trafics d'alcool d'Al Capone. Le second, on l'a oublié alors que c'est bien lui qui l'a fait tomber, le truand, c'est Frank Wilson. Pour cela, Wilson doit prouver que Capone fraude le fisc. Reste à savoir comment faire, dans la mesure où Al Capone n'est officiellement propriétaire de rien. Il n'a même pas de compte bancaire, mais malheureusement pour lui, la Cour suprême vient de rendre une décision importante dans une autre affaire. En 1925, elle a décidé que tous les revenus sont soumis à l'impôt, y compris ceux qui proviennent d'activités criminelles. Cela revient à taxer de l'argent illégal, ce qui est un peu curieux, vous en conviendrez. Mais Frank Wilson a enfin trouvé son angle d'attaque. Il n'a donc plus qu'à estimer les gains et les dépenses de Capone pour le coincer. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'agent Wilson se lance dans un travail de fourmi qui va lui prendre pas moins de 3 ans. Il parvient à infiltrer des hommes dans l'organisation de Capone. Pendant des mois, c'est toute une armée de comptables qui épluche la moindre dépense, de ses diamants à ses sous-vêtements. À chaque fois qu'Al Capone fume un cigare en public, un agent note scrupuleusement le montant correspondant. Après 3 ans d'enquête, Frank Wilson rend un rapport méthodique et implacable. De 1924 à 1929, la mafia de Chicago a gagné plus de 100 millions de dollars, pas loin de 2 milliards d'aujourd'hui. Concernant Capone, Wilson a identifié plus d'1 million de dollars de revenus, 18 millions d'aujourd'hui. Les gains réels sont sans doute bien supérieurs, mais cela suffit. Capone a fraudé le fisc d'au moins 215 000 dollars, une somme largement suffisante pour l'envoyer en prison. Enfin, à une condition, que Capone perde son procès, qui s'ouvre le 7 octobre 1931. Mathieu, vous vous doutez bien qu'Al Capone, qui n'est pas un enfant de cœur, avait sans nul doute de quoi se payer quelques bataillons d'avocats pour organiser sa défense lors du procès. Bien avant de se retrouver au tribunal, Capone avait aussi lancé toute une série de contre-feux. Il a commencé par faire comprendre à ceux qui seraient tentés de jaser qu'il pourrait bien se retrouver au fond du lac Michigan, les pieds dans du ciment. Mais Frank Wilson a réagi en créant le tout premier programme de protection des témoins. Al Capone a alors joué la carte de l'opinion publique. Alors que la crise économique de 1929 fait rage, il lance la première grande soupe populaire des États-Unis, la Soup Kitchen. 3 fois par jour, ces hommes jouent les bons samaritains et distribuent des rations alimentaires aux victimes de la Grande Dépression. C'est idéal pour entretenir son image de bienfaiteur. Mais Capone ne s'arrête pas là. Il tente de passer un accord à l'amiable avec le fisc. Mais le trésor américain refuse. Qu'à cela ne tienne, Capone revient aux bonnes vieilles méthodes et tente de faire abattre le procureur.
Ah, là, je le retrouve.
Mais tant pis pour lui et heureusement pour l'autre, l'homme est trop bien protégé. Juste avant le procès, il tente alors un dernier coup de poker en soudoyant les jurés. Mais le juge a le nez creux. Au dernier moment, il remplace le jury par un autre, convoqué à la même heure pour une autre affaire. Bref, rien n'y fait, il va falloir se défendre à la loyale pour une fois. Et là, Al Capone commet une nouvelle fois une bévue. Celle de faire confiance à ses avocats les plus fidèles. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas fiscalistes et qu'ils vont passer à côté d'une faille assez sérieuse dans le dossier monté par l'agent du Trésor, Frank Wilson. Sa preuve principale était un livre de comptes pour des affaires vieilles de 7 ans, donc prescrites à la date du procès. Le 17 octobre 1931, Al Capone est condamné à la plus longue peine de prison jamais prononcée aux États-Unis pour fraude fiscale. 17 années dans 11 fermes. La suite est connue. Al Capone est incarcéré à Alcatraz, où il est décrit comme un prisonnier inoffensif qui joue de temps en temps du banjo avec un groupe de détenus de la prison, les Rock Islanders. Mais Capone est de plus en plus malade à cause d'une vieille syphilis mal soignée. Diminué, il est remis en liberté conditionnelle 3 ans plus tôt que prévu, en 1939. Il passe ses dernières années loin de Chicago, à Miami, et meurt dans son lit d'une idiote crise cardiaque en 1947. Le balafré aura finalement vérifié ce vieux dicton américain qui veut que rien ne soit certain dans ce bas monde, à part la mort et les impôts.
Capone est mort fou de la petite Phyllis. Fini le gang. En 25, il n'y avait pas d'antibiotiques. Ça lui a coûté la vie. Tant pis pour lui.
Pour continuer à parler d'Al Capone, nous sommes avec l'écrivain Philippe Di Folco. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour Philippe Di Folco, vous êtes donc écrivain, scénariste, enseignant, auteur du Dictionnaire des mafias et du crime organisé qui vient d'être publié chez Perrin. C'est quand même cocasse de constater qu'un gangster de ce calibre, Al Capone, s'est fait pincer pour évasion fiscale. Est-ce que, selon vous, ça participe au mythe ?
Oui, surtout que le mythe, cher Stéphane, est né de son vivant. Comme vous le rappeliez, il est le premier gangster nouveau riche et il répond à des journalistes, il s'affiche avec des puissants. On connaît cette fameuse photo où il est assis lors d'un match de baseball à côté du président Hoover. Il s'affiche aussi avec ses enfants. Vous voyez, il est un bon père de famille, homme d'affaires, respectable. Et en même temps, vous avez là un homme qui est fortement dépensier et qui alimente en filles, en armes et en billets de banque tout le système politique, les flics, etc.
Mais alors Philippe Di Folco, il y a quelque chose dans le récit de Stéphane moi, qui m'étonne quand même, mais je ne dois pas être le seul, c'est comment ça se fait qu'on n'ait jamais réussi à arrêter Al Capone pour ses crimes qui sont nombreux. Il a quand même fait tuer du monde. Il n'y avait pas la moindre preuve qui pesait contre lui. Ça paraît fou.
Alors non, il n'y a pas la moindre preuve, mais il a été quand même arrêté de nombreuses fois. On a des photos de, vous savez, des mugshots, oui. Vous savez, des photos d'arrestation très célèbres. Il a été interpellé dans de nombreuses enquêtes criminelles, mais à chaque fois, bien entendu, il n'y a aucune preuve. Pourquoi ? Mais la raison est très simple, en fait. Il fait commettre ses crimes par des intermédiaires qui eux-mêmes commanditent des intermédiaires. On ne peut pas remonter à la source. C'est tout simple. Hein. C'est un procédé assez élaboré.
Bah surtout s'il y a 1200 truands qui travaillent pour lui.
Oui, c'est ça.
En réalité, oui, c'est chacun
on n'arrive pas à remonter la chaîne de responsabilité.
Alors, vous le racontiez, et évidemment, Philippe, sa vie a inspiré des livres, mais aussi une profusion de films, de séries télévisées. Il faut dire qu'il y a tous les ingrédients dans la vie d'Al Capone. Le crime, la prison, la maladie, ça tient aussi à des détails. Scarface, la balafre, son style aussi.
Oui, alors c'est quelqu'un qui fait très attention à son image. Il refuse, par exemple, il fait abattre sans doute les photographes qui publient une photo avec sa balafre, vous voyez. Il est toujours très bien habillé. Alors officiellement, quand même, c'est un brocanteur et un propriétaire de laverie. Donc c'est pas exactement l'homme qui ne fait rien.
C'est
quand
Louis
même.
La brocante. Oui.
C'est ça, c'est
non,
Louis la brocante.
Des laveries d'argent sale.
Ah, oui. Exactement. C'est formidable. Le mot blanchir l'argent vient peut-être de là, d'ailleurs, on ne sait pas. Son héritage, vous savez, fut préservé. L'État américain n'a pas pu tout saisir. La loi n'était pas encore au point. Et c'est triste, c'est vrai. La maladie l'a rattrapé un peu comme Nietzsche.
Oui.
La syphilis.
La syphilis,
voilà.
Oui, c'est ce que chantait Régine écrite par Serge Gainsbourg.
Alors, avant de frauder le fisc et avant de devenir le gangster star que l'histoire a retenu, vous rappelez dans votre dictionnaire des mafias et du crime organisé qu'Alphonse Capone était jusqu'à 14 ans un bon élève catholique issu d'une famille de 9 enfants qui ne sont pas tous devenus des voyous. Qu'est-ce qui l'a fait basculer ? Pourquoi lui ?
Je pense que c'est un peu plus tôt, vers 12-13 ans, quand au moment de l'adolescence, il a fait de mauvaises rencontres dans son quartier de Brooklyn où vivaient beaucoup d'Italiens, d'immigrés italiens, et notamment Johnny Torrio. Et il va le recruter vers l'âge de 16-17 ans. Il est assez baraqué, hein, et il devient un gros bras dans un bordel clandestin à Brooklyn. Et d'ailleurs, c'est à cet âge-là qu'il hérite d'une cicatrice dont on ignore vraiment exactement l'origine. Et contrairement à ce qu'il a raconté également, Alphonse n'a jamais ensuite servi sous les drapeaux américains en 1917. Voilà, donc il a déjà menti là-dessus, ce qui la fout mal. En 1919, la prohibition lui permet de gagner ses premiers milliers de dollars, etc.
Dans la famille, il n'y a pas d'autres cas il n'a pas embauché ses frères, ses sœurs, ses cousins
En fait, sur les 9, il est le 4e. Et donc, vous avez l'aîné, Ralph, qui s'appelle, en fait, qui est surnommé Bouteille, hein, Bottles, parce qu'il dirige, lui, officiellement, une entreprise de boissons gazeuses, figurez-vous. C'est le plus discret. Et en fait, d'après mes recherches, il fait office de conseiller dans l'organisation de Capone. Et il va mourir en 74, figurez-vous. Donc, il n'a jamais été inquiété. Et c'est Ralph qui va gérer l'héritage financier d'Alphonse. Et sauf erreur, il s'est tenu à l'écart à dessein. Bien sûr, évidemment, pour éviter que tout l'Empire tombe. Et ensuite, vous avez le deuxième frère aîné, Frank. Alors lui, il était carrément taré, on l'appelait le fou, et il est mort lors d'une fusillade en 1924, et son enterrement était digne d'un chef d'État. Son cercueil était recouvert de feuilles d'argent. Voilà.
Il y a quelque chose qui fascine et qui interroge aussi Philippe Di Folco, c'est le côté star d'Al Capone. Aujourd'hui, on a l'habitude, on a vu des films, donc ça nous choque en rien qu'une star, par exemple, le baron de la drogue, soit arrêté, que ça soit un peu qu'on fasse des films sur lui, que ça soit une star. Mais à l'époque, c'est très nouveau qu'un gangster soit une star. Est-ce que ça le sert ou ça le dessert dans son métier, entre parenthèses, de gangster ? Parce qu'être sous les feux des projecteurs, c'est peut-être pas une très bonne idée quand on travaille dans l'ombre.
Bah c'est un peu les deux, effectivement. Il a cultivé son image de star dès les années 20, et puis évidemment, en 1932, sort sur les écrans Scarface, de Ward Hawks, qui devient le premier blockbuster de l'histoire du parlant, et qui est largement inspiré de sa vie, au point qu'il a même touché des droits, vous vous rendez compte. Notre immense Blaise Cendrars, rappelle dans son Anthologie de la Pègre, qui paraît un peu au même moment, qu'Alphonse est la première star du crime. Vous vous rendez compte? Et des tabloïds illustrés comme Life tirent des millions d'exemplaires avec son visage en couverture. Vous vous rendez compte? C'est incroyable.
Et cela dit, il savait cultiver son image. J'ai raconté l'histoire de la soupe populaire pour après la Grande Dépression et le jeudi noir de 1929. Il offrait des logements gratuits. Alors, est-ce que c'était intentionnel, je veux dire, pour cultiver son image, ou est-ce qu'il avait un bon fond, comme on dit?
Bon, on peut dire qu'il n'oubliait pas ses origines, si on veut. Moi, je ne crois pas aux figures saintes de Capone ou des mafieux en général. C'est totalement intéressé. De toute façon, aucune entreprise fondée par les capitaux en sous-main d'Alphonse était gratuitement. Le service se payait. Il créait ainsi une chaîne d'intérêt, de médiation et de dépendance. C'était uniquement comme ça que ça fonctionnait. C'est un coup de pub. Évidemment, après la crise de 29, il fallait se montrer généreux. Comme par hasard, voilà, il organise la première soupe populaire, effectivement. Et, enfin bon, tout ça, c'était de la manipulation médiatique.
Ce qui paraît complètement ahurissant aujourd'hui, c'est dans l'époque de la Prohibition qui a vu naître le génie d'Al Capone, c'est que c'était couru d'avance, que si vous interdisez l'alcool, il va y avoir un trafic.
Absolument, c'est un système profondément hypocrite, dénoncé dès la mise en place en 1917-19. La première grande décision du gouvernement Roosevelt en novembre 1932, c'est de supprimer la prohibition. Tout de même, c'est clair que ça ne pouvait pas durer. Il faut signaler qu'il s'installe à Chicago, parce que Chicago est la porte d'entrée de l'alcool canadien. Grâce au Grand Lac, évidemment, c'est là que ça se passe.
Oui, c'est fou. Sans la prohibition, il n'y aurait pas eu tout ce crime organisé.
C'est un peu comme si on interdisait le cannabis, par exemple. Il y aurait forcément un marché parallèle qui se créerait.
Vous croyez?
Je crois.
Oh non,
je crois.
Vous êtes très disruptif.
Oui, aujourd'hui, je suis très disruptif. Oui, j'ai décidé d'être dans la transgression.
En tout cas, si vous voulez voir plus clair sur Al Capone et ses nombreux autres.
Acolytes, peut-être.
Oui, voilà, ceux qui s'en sont inspirés. Je vous conseille le passionnant dictionnaire des mafias et du crime organisé. Vous pouvez choisir votre camp, Mathieu.
Je vais y réfléchir,
Stéphane. Ça vient de paraître aux éditions Perrin. En tout cas, merci beaucoup, Philippe Dufolco, de nous avoir éclairé sur ce personnage.
Merci à vous.
Merci, Stéphane. Merci beaucoup, Mathieu.
Ici, Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui nous donnent envie d'y croire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, si on vous croit, vous nous dites que Colette, qui avait commencé, comme on le sait,
elle a tout essayé,
voilà, danseuse, voilà. Et elle était devenue une sacrée cougar.
Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah. Hein. C'est du genre Catherine II avec son platoff, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois que c'était 28 ans de différence, c'est ça? Non, il avait 28 ans, ils avaient 40 ans de différence. Donc là, bon, c'était encore une pire cougar. Alors en tout cas, à l'été 1920, Colette a 47 ans. Et signe prémonitoire, elle vient juste de publier un livre intitulé « Chérie » qui raconte une histoire d'amour entre une femme mûre et un jeune homme. Et c'est là qu'elle fait connaissance de son beau-fils Bertrand Jouvenel. Il a 16 ans et demi, bientôt 17 ans. Et elle lui offre un exemplaire dédicacé de son dernier roman « Chérie » à mon fils chéri Bertrand Jouvenel. En fesse de...
C'est votre inconscient.
Mais tout à fait, c'est mon inconscient qui parle. C'est parce que vous me faites comme Monsieur Jourdain. Je fais que des histoires de sexe à l'insu de mon plein gré. Donc je fais des démos. Regardez ça.
On aimerait vous parler du jansénisme, de choses
bien sûr,
extrêmement
rigoureuses. Bien sûr, je voudrais vous parler de la réforme luthérienne.
Et c'est vous qui insistez pour parler fesses.
En tout cas, elle lui dédicace à mon fils chéri, et en fait de fils chéri, vous l'avez compris, ce beau-fils va devenir son amant. Leur liaison débute en juillet 1921. Alors, il est vrai qu'avec son mari, les relations sont compliquées, parce qu'il a une maîtresse, et la maîtresse vit quasiment avec eux. Hein. Oui. On est chez Colette, tout ça, c'est très...
Ils n'ont
très...
pas le lien de sang, rappelons-le.
Non, ils n'ont aucun lien de sang. C'est essentiel. Attendez, c'est qu'il a beau être tout jeune, il n'aime qu'elle, il va tomber fou amoureux de cette femme. Il en écrit, elle m'intimidait terriblement, ne ressemblant à personne que j'eusse rencontré. Il est vraiment fasciné. Ouais. Et il estime que son visage allie la majesté du front, les triangles parfaits, des narines, des yeux beaux et allongés, des lèvres très finement dessinées, spirituelles. Voilà, en gros, l'air naturel de Colette était extraordinairement imposant. Écoutez, moi, je pense surtout qu'il était fortement impressionné par l'écrivain, parce que c'est une femme très connue à l'époque. Parce qu'attendez, elle a 48 ans à ce moment-là qu'on commence leur liaison, donc elle pèse 105 kilos. C'est quand même un sacré...
105 kilos.
Oui, c'est un sacré morceau pour un jeune teenager de 17 ans. Alors du coup, elle écrit... Elle écrit...
Ah oui, donc c'est une matronne, c'est vraiment une femme imposante.
Bien sûr, c'est moi, regardez-moi, c'est encore un peu plus gros que moi, mais c'est ça, c'est une grosse dame.
Mais
moi, je m'en fous.
Et votre beau-fils, comment va-t-il?
Non, écoutez, arrêtez. Non, ça suffit. Donc elle écrit. Je ne songe jamais à la différence d'âge. Ben voyons,
ah bah,
tu penses. Hein. Et alors elle l'emmène partout, pêcher la crevette, chasser les antiquités à Saint-Malo.
Pêcher la crevette, c'est vous envoyer un message féminin.
Allez-y,
faites
preuve d'imagination. Elle lui fait découvrir Balzac et... Cette liaison va lui inspirer son roman suivant, Le blé en herbe, qui raconte l'éducation sentimentale et sexuelle de deux adolescents parisiens. Et comme à 19 ans, il devient étudiant, il a besoin d'un petit logement à Paris, bien sûr. Alors elle va voir sa copine Hélène Picard et Colette. Elle lui demande de lui louer un studio rue d'Alray. Donc dans le bouquin le blé en herbe, la dame qui dépucelle le jeune héros, elle s'appelle Madame d'Alray, bien sûr. C'est la dame blanche. Hein. Alors toutes les semaines, elle va retrouver son petit amoureux là dans son studio de la rue d'Alray, avec elle, écrit la psychanalyste Marie-Noëlle Lanval dans un article qu'elle a consacré à Colette Cougar. Il découvrit l'Algérie en avril 1922. Le désert, le thé à la menthe, les ruines romaines de Tipaza et les danseuses nues. Un aspect exotique de l'existence qu'il ne connaissait pas. Boulevard Saint-Germain, chez ma mère. Moi, je vous le demande, messieurs, est-ce que vous avez vu des danseuses nues dans le salon de vos mamans? Ça m'étonnerait.
Non,
ça m'étonnerait.
Peu, mais est-ce qu'on avait envie de voir Colette danser nue?
Ah non, c'est pas
Colette qui danse, Stéphane.
Non, c'est pas Colette à 105 kilos qui dansait nue, je vous rassure tout de suite. Encore que, à mon avis, elle était tout à fait capable de faire ça. Hein. Alors, ses parents, vous imaginez, ils découvrent l'histoire du blé en herbe. C'est publié en feuilleton dans le journal Le Matin.
Donc, ils reconnaissent leur fils.
Bah, bien sûr, ils sont absolument furieux. Alors, ils l'envoient au sport d'hiver. Hein. Ça, c'est l'ultima ratio regis des parents qui trouvent que leur fils
des parents qui ont les moyens.
Et qui ont les moyens et que leur fils n'a pas la bonne fiancée. Et le papa veut l'envoyer en Tchécoslovaquie chez un ami, mais Bertrand ne veut pas. Il dit non, Colette ne veut pas. Alors là, c'est la goutte d'eau. Henri quitte Colette, il quitte l'hôtel particulier. Enfin, la relation entre les deux continue pendant ce temps-là. Sauf que le petit Bertrand, il a mûri, il a pris de l'assurance. Et puis, il ne suit plus Colette aussi caninement qu'il le faisait en août de 1921. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle avait écrit ça à une copine. En gros, elle décrivait Bertrand comme un petit chien qui la suivait partout. Il me suit fort caninement, c'est quand même pas très flatteur. Hein. Alors les parents vont y aller. Allez, on présente une première Mademoiselle de Riclès, mais Colette, quand il doit partir au dîner de fiançailles, elle lui lance un billet doux par la fenêtre en disant « je t'aime ». Alors il remonte, le billet de fiançailles est annulé, le dîner, c'est quand même tout ça, c'est très très romanesque. Mais les parents, évidemment, ils sont là, fous furieux à présenter toutes les jeunes filles qu'on peut. Et finalement, au printemps 1925, ils fiancent leur fils avec Marcel Pratt, une très jolie, intelligente jeune femme attirée par les arts. On envoie Bertrand dans le Midi pour des raisons de santé, enfin tu parles, et comme par hasard, la jolie Marcel Pratt se trouve dans un hôtel voisin du sien. Bon, alors, Colette va retrouver Bertrand, ils discutent toute la nuit et ils conviennent d'une séparation. Voilà. Donc, ils se séparent et elle retrouve son futur mari qui a 16 ans de moins qu'elle et qui s'appelle Maurice Goudeguette et la vie est belle. Hein?
Mais c'est comme ça que ça se finit.
Ah ouais.
Une belle histoire.
Oui, mais
belle
écoutez, histoire. Bertrand Journel dira, elle m'a tout apporté, cette femme.
En tout cas, vous m'avez l'air en pleine forme pour le quiz. Vous savez, ce face-à-face, ou plutôt, comme dirait notre ami Clémentine, ce face-à-face.
C'est affreux.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Un homme que tout le monde imagine comme très savant, un homme qui en réalité ment, triche et bluffe.
C'est exactement mon mari.
Non, Clémentine, c'est Stéphane Bern. On va te faire toi aussi. Jouons à Bern to be alone. Ce quiz sans pitié qui vous oppose chaque après-midi. Stéphane, la première question est pour vous. Le plus jeune frère de Napoléon Bonaparte a eu un fils, qui a eu lui-même un fils. Ce dernier a créé l'ancêtre du FBI.
Oui, absolument. Un peu Napoléon Wise.
La question ne s'est pas terminée.
Je l'ai raconté dans un livre.
Oui, vous l'avez raconté dans un livre. Mais lequel, Stéphane? Vous vous souvenez?
Le secret d'histoire numéro
combien? Si vous trouvez le bon numéro, vous avez...
475.
Ça doit être le 7, je crois.
Oui, le 7 ou le 8 ou le 10, on ne sait plus. En tout cas, c'est une bonne réponse. Bravo, Stéphane. Le petit-neveu de Napoléon Bonaparte était Charles-Joseph Bonaparte, né à Baltimore. Il a été membre des Républicains, procureur général des États-Unis. Le 26 juillet 1908, il embauche les 10 premiers agents du Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI. Question numéro 2, Clémentine, c'est pour vous. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième, Albert Einstein. L'histoire, c'est la guerre, mais c'est aussi les armistices. D'ailleurs, de 1762 à 1798, on disait une armistice, vrai ou faux ?
Est-ce que ça aurait changé de genre ? Et pourquoi très précisément entre 1797
et... Entre 1762 et 1798, soyons précis s'il vous plaît. On disait à l'époque une armistice. Est-ce vrai ou est-ce faux ?
Écoutez, je vois pas pourquoi tout d'un coup. En même temps, la question n'aurait pas de sens si elle n'était pas vraie. Et pourquoi est-ce qu'on aurait changé le... Bon, je vais répondre vrai parce que je ne comprends pas l'intérêt. Si ça n'est pas vrai, je vois pas l'intérêt. Alors, vrai.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, même si vous n'y croyez pas, c'est vrai. Le mot est apparu à la fin du XVIIe siècle. L'Académie française l'ajoute dans son dictionnaire en 1762 en disant une armistice, sûrement par erreur. Et en 1798, elle le remet au masculin. C'était une erreur, n'est-ce pas ? De l'Académie française,
oh,
car
c'est
les
bien.
Immortels aussi commettent des erreurs. Stéphane, toujours pas candidat à l'Académie française ? Toujours
pourquoi
pas de dossier ? Je ne sais pas, ça serait dans la droite ligne de votre carrière fulgurante.
Non, écoutez, non.
Terminé
non.
Sous la coupole, tout de même.
Oui.
Question numéro 3 pour vous.
Vous savez, je terminerai sous une...
sous une coupole, de toute façon, hein, d'une manière ou d'une autre.
Je vous propose un peu de musique pour nous détendre, cher Stéphane, avec une question toute simple. Est-ce que c'est du Mozart ?
Oui, ça ressemble. Mais vous savez, ça pourrait être du Haydn, ça pourrait être du...
Non, la question n'est pas est-ce que ça ressemble à du Mozart, c'est est-ce que c'est du Mozart ?
Oui, ça doit être du Mozart, oui.
Vous le pensez ?
Est-ce que c'est pas une partition qu'on a retrouvée il n'y a pas longtemps ? Il y a eu un scoop autour d'un... On a à nouveau
Mozart,
trouvé quelque chose.
Vous avez gagné !
C'est ce qui s'appelle avoir l'oreille absolue. Réponse, oui.
Non, mais je n'ai pas l'oreille, mais je connais un peu Mozart.
Non, mais c'est pas la peine de vous vanter, parce qu'en fait, c'est une blague. C'est du Franz Xaver Wolfgang Mozart, le fils de Mozart. Ce dernier n'aura pas d'enfant. Tout comme Karl Thomas Mozart, le deuxième fils, la lignée directe de Mozart va donc s'éteindre très vite. Mozart a eu 6 enfants en tout, mais tous les autres sont morts très jeunes.
Oui.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, le niveau est très élevé aujourd'hui dans le quiz. En 1663, le nom de New York est donné en hommage au frère du roi d'Angleterre, Charles II, le fameux Jacques II, qui était également duc d'York. York étant une ville du nord de l'Angleterre. La ville de New York est la capitale de l'État de New York. Vrai ou faux ?
C'est l'État de New York, c'est pas le Massachusetts, que je ne sais jamais prononcer.
La ville de New York est-elle la capitale de l'État de New York ?
Est-ce qu'il y a un État de New York ? Est-ce que c'est New York et dans le Massachusetts ? Non.
Vous dites faux.
Vous avez gagné !
Vous dites faux et c'est une bonne réponse. C'est Albany. La légende dit qu'en 1540, des Français ont construit un fort sur une île tout près de l'actuelle ville d'Albany. Mais le fort s'est effondré pendant sa construction. Vous avez donc 2 points chacun, ce qui est une belle performance. Je tiens déjà à vous féliciter avant le cruel dénouement qui nous attend maintenant, puisque un seul peut remporter le quiz, sauf si vraiment vous êtes très nul. Le 11 mai 1997 est une date historique. L'homme perd une bataille contre la machine. Le champion d'échecs Garry Kasparov s'incline devant Deep Blue, un superordinateur conçu par IBM. C'est un coup très surprenant qui a déstabilisé le champion russe. Comment est né ce mouvement ? 3 propositions. C'est Karpov, un autre russe qui avait collaboré avec les ingénieurs d'IBM. C'est un simple bug. Ou c'est un mouvement que le père de Kasparov lui avait appris. Le champion russe pensait être le seul avec son père à le connaître.
Oh, c'est 3. Pour le 3.
Oui.
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
2.
Oh, Clémentine Portier gagne cette bague, effectivement. Comment savez-vous ça ? C'était un simple bug.
J'aime beaucoup les échecs.
On sent que vous y connaissez.
C'est un scandale.
Effectivement, c'est l'histoire, c'est ça.
Alors, quel était le 2, Stéphane, déjà vous...
Mais vous le savez, puisque vous avez bien répondu.
Oui.
C'était un bug informatique, figurez-vous. Alors que l'ordinateur pouvait programmer 200 millions de positions par seconde, il n'a juste pas réussi à en choisir une. Il a donc joué totalement au hasard. Kasparov a cru à un coup de maître. Il a totalement changé de stratégie, déstabilisé. Il a perdu tous ses moyens pour les coups et parties suivantes.
Magnifique.
La machine triomphait de l'homme. C'est pas prêt d'arriver dans le quiz.
C'est ce que je viens de faire aussi.
C'est vrai.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Un franco-luxembourgeois spécialiste du crédit d'impôt pour rénovation historique et un franco-suisse à qui il est arrivé, peut-être, je ne sais plus, de pratiquer l'optimisation fiscale. Étions-nous, Stéphane, les mieux placés pour présenter une émission sur la fraude fiscale dans l'histoire ?
Oula non ! Ah bah si, si, moi je plaide, oui.
En tout cas, nous sommes là. Oui. Et nos personnages aussi, Stéphane.
Oui, Mathieu, contrairement à nous, à moi en tout cas, eux ont fraudé le fisc. Après Al Capone, dont on se doutait bien qu'il n'avait pas dû payer ses impôts rubis sur l'ongle, je vais évoquer un personnage célèbre dont on a du mal à imaginer qu'il ait pu frauder le fisc. Un dramaturge de génie et homme d'affaires que l'on connaît moins, c'est William Shakespeare. À la rigueur, vous savez, il y a eu des scandales sur le fait est-ce qu'il a écrit ou pas ses pièces.
Oui, mais
de là,
sur les impôts,
il n'a pas payé ses impôts.
C'est étonnant.
Bon. Plus proche de nous, Mathieu, vous nous raconterez la folle et terrifiante histoire de Fan Bingbing, une actrice chinoise qui a dû regretter amèrement d'avoir fraudé.
Oui, car en Chine, vous allez voir, on ne plaisante pas avec les impôts. Quand vous ne payez pas, on ne se fatigue pas à vous envoyer une lettre de relance ou à vous proposer d'étaler vos paiements. On vous fait carrément disparaître, hein, le temps que vous preniez conscience que c'est important de payer ses impôts.
Et puis eux, ils ont réapparu, eh oui. David Castello-Lopez et Olivier Pouls. Alors, David Castello-Lopez a l'habitude de nous raconter les origines d'une invention. Et aujourd'hui, eh bien...
Et bien aujourd'hui, c'est l'open space.
Oui.
Ces endroits dans lesquels on, quand même, on, beaucoup de gens travaillent aujourd'hui.
On dit plutôt espace paysager aujourd'hui.
Ah, oui, espace paysager.
Ou lieu de contamination. Oui. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant.
Parce qu'on évite l'anglais, voyez-vous.
Un espace paysager. Je ne sais pas si tout le monde comprendra de quoi on veut parler.
Non,
quand
on dit plutôt open space. N'écoutez pas Stéphane. Faites-moi plutôt confiance. En revanche, dans un open space, quand on a des collègues sympas, parfois il y en a un qui arrive avec des macarons et qui les distribue à tout le monde gentiment. Ce n'est pas le père Olivier Pouls qui nous parle.
Il nous parle, mais il ne les apporte pas.
Non, mais parce qu'on ne peut pas, avec les gestes barrières, tout ça, les contraintes
Covid...
Tu poses
la boîte, tu la poses sur un bureau, puis on sert.
Ah, mais si je les ai touchés, par exemple, je ne voudrais pas être responsable, voyez-vous...
Toutes les excuses sont bonnes. Racontez-nous plutôt l'histoire du macaron.
Voilà, d'où vient-il. Et puis, je vous donnerai surtout une recette pour les faire vous-même. Vous verrez, c'est beaucoup moins cher.
Le mot de la fin, Stéphane, vous revient évidemment chaque jour l'histoire d'une expression.
Alors, ça, c'est une expression qui m'a toujours beaucoup plu. C'est les dents du bonheur.
Ah, oui.
Vous savez, quand on a dents bien... Oui, les deux dents de devant écartées, on appelle ça les dents du bonheur.
Pourquoi ?
Ça vient d'où ? Bon, de la bouche, certes. Mais quelle est l'origine ?
Je sens que ça va être encore une enquête très très pointue, Stéphane.
J'ai hâte. Pensez à Napoléon. C'est un indice. Hein.
Voilà. Petit indice
je
pour vous.
Ça,
à
je
la
dis
maison.
Rien.
Tout de suite, il le savait, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Stéphane Bern nous raconte Shakespeare, pas l'auteur génial, mais le fraudeur du fisc.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il y a des noms qui semblent intouchables, et Shakespeare en fait partie, surtout pour les Anglais. Pas question de toucher au barde de Laven, comme on l'appelle outre-Manche. Shakespeare, c'est comme Mozart pour un Autrichien, c'est une statue du commandeur à laquelle on ne s'attaque pas comme ça, impunément. Et pourtant, Mathieu, et pourtant. À force de s'enfoncer dans les archives, on, et le on, vous allez le voir, ce sont des Gallois, on donc finit par trouver des petites choses qui font un peu tache dans le décor.
Aïe, aïe.
C'est curieux pour un auteur aussi célèbre, mais il reste encore de nombreuses zones d'ombre autour du plus grand dramaturge anglais. Il n'y a pas de mystère sur la date et sur le lieu de sa naissance en 1564 à Stratford-upon-Avon, au plein centre de l'Angleterre. Je ne sais pas si vous y êtes allé.
Bien sûr, j'ai visité sa maison.
Oui, moi aussi. Oui. C'est ce qu'on fait quand on fait à
et
nous
après,
les petites Anglaises.
On mange quelques petits financiers.
Voilà. On sait aussi qu'il a vu le jour dans une famille de fermiers plutôt aisés, mais que son père a rapidement eu des revers de fortune assez sévères. On sait enfin qu'il a été marié très jeune, à 18 ans, mais ensuite, c'est mystère et boule de gomme pendant 7 ans. En 1585, William Shakespeare disparaît presque complètement des documents officiels et on ne le retrouve que bien plus tard à Londres, en 1592, à un moment où il est déjà bien installé dans le petit monde du théâtre londonien, au beau milieu du règne de la reine Élisabeth Ière. On connaît la suite. En quelques années, Shakespeare s'impose comme l'étoile du théâtre élisabétain. Il devient le roi de la scène londonienne et surtout du Globe. Ce grand théâtre rond avec ses gradins de bois et cette célèbre devise « Le monde entier est un théâtre ». L'essentiel de son œuvre, Shakespeare l'a écrit pendant 20 ans, entre 1591 et 1611. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est entrée dans l'histoire de la littérature. Othello, Hamlet, Richard III, Le songe d'une nuit d'été, Macbeth ou des sonnets avaient fait de Shakespeare une légende bien avant sa mort en 1616.
La reine Élisabeth l'a protégé. Son successeur, Jacques Ier, davantage encore. Et si cela ne l'a pas rendu richissime, Shakespeare s'est tout de même retrouvé franchement aisé. On en veut pour preuve lorsqu'il retourne s'installer à Stratford-upon-Avon, 11 ans après l'avoir quitté. Il peut, en quelques mois, racheter les dettes de son père et, mieux encore, acheter des terres pour étendre son domaine. Et ces terres, il y tient. On sait depuis longtemps que le grand Shakespeare avait tout clôturé pour empêcher le bétail des voisins de venir brouter son herbe. On sait aussi qu'il n'hésitait pas à chasser les audacieux qui tentaient d'y faire pousser quelques salades en douce. Voilà que se dessine là l'autre Shakespeare. Oh, pas le génie du théâtre, mais l'homme d'affaires. Pas le poète, mais le prêteur sur gage. Le propriétaire terrien, un peu chicaneur, et bien près de ses sous. Le genre qui note méthodiquement tout ce qu'on lui doit, à quel taux et jusqu'à quelle date. Alors évidemment, cela fait un peu tâche d'imaginer le grand auteur occupé à compter chaque penny, chaque pound et chaque shilling au lieu d'écrire une nouvelle pièce immortelle. Mais enfin voilà, le grand homme est rude en affaires. Parfois, c'est même aux limites de la légalité, Mathieu. D'après l'étude publiée en 2013 par ses chercheurs gallois, le grand Shakespeare avait, comme son père, tendance à spéculer sur le grain qu'il achetait en grande quantité à la belle saison, histoire de le revendre au prix fort à la mauvaise saison. Ce genre de pratique d'affameur, comme on disait alors en France, n'avait évidemment pas la cote, surtout partant de disettes. Or, elles étaient fréquentes à cette époque, les disettes. L'Europe est au milieu de ce qu'on appelle la petite ère glaciaire. On alterne entre des hivers où il gèle à pierre fendre et des étés maussades avec à la clé des récoltes lamentables. De son côté, Shakespeare possédait des stocks de blé et de malt. On peut donc comprendre que Shakespeare ait eu envie de se faire un petit matelas financier. Après tout, la pauvreté, il l'avait connue dans son enfance. Mais les mêmes chercheurs gallois ont trouvé autre chose qui vient noircir un peu plus le tableau. Non seulement Shakespeare avait des pratiques commerciales douteuses, mais il n'y a plus guère de doute sur le fait qu'il ne payait pas ses impôts, et ce pendant plusieurs années de suite. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé des parchemins de la fin des années 1590. Dans ces sortes de registres fiscaux, les percepteurs d'Élisabeth Ier gardaient la trace d'une taxe qui rappelle un peu notre impôt sur le revenu, proportionnel donc à la fortune du contribuable William Shakespeare. Et ce qu'il en ressort, c'est une petite notule en face des revenus estimés de William Shakespeare, un terme latin, affidavit. Un tout petit mot qui signifie que l'auteur du rapport n'a pas réussi à récupérer l'argent réclamé. Le flouze, l'oseille, les broujoufs.
C'est vrai que ça, c'est vraiment votre vocabulaire, Stéphane.
Non, mais je parle très bien l'anglais. Le pire, c'est que Shakespeare n'a pas vraiment d'excuses. Entre 1596 et 1599, il n'est pas franchement désargenté. C'est même plutôt le contraire. Il est célèbre, la reine l'a repéré, il a même personnellement joué devant elle le jour de Noël 1597. Il est aussi suffisamment riche pour avoir racheté la plus jolie maison de Stratford-upon-Avon. Bref, Shakespeare n'était pas dans le besoin. Alors, qu'est-ce qui lui a pris ? Difficile à dire. D'autant que les chercheurs n'ont pas réussi à mettre la main sur le résultat des poursuites engagées contre lui pour fraude fiscale. On ne peut pas complètement écarter l'idée qu'il ait été de bonne foi. Après tout, l'auteur de Macbeth vivait en partie à Londres et en partie à Stratford-upon-Avon, ce qui ne devait pas lui simplifier la vie au moment de déclarer ses revenus. Mais connaissant certains aspects du personnage, il n'est pas exclu du tout que Shakespeare ait berné sa majesté de quelques sous en toute conscience. Après tout, payer ses taxes ou ne pas payer ses taxes, that is the question.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à en parler et essayer d'y voir plus clair, nous sommes avec le grand spécialiste François Larocque. Bonjour François.
Oui, bonjour.
François Larocque, vous êtes professeur émérite de littérature anglaise à la Sorbonne Nouvelle, traducteur de l'œuvre, mais surtout le grand spécialiste français de William Shakespeare. Vous lui avez notamment consacré un dictionnaire amoureux publié chez Plon. Alors, on connaissait ici, dans notre émission, le dramaturge, le poète, l'acteur, mais j'avoue que là, j'ai découvert en préparant ce récit un nouveau Shakespeare avec celui que l'on décrirait aujourd'hui comme le roi de l'optimisation fiscale. C'est une facette étonnante, mais bien réelle, François Larocque, ou c'est pure légende galloise ?
Oh non, ce n'est pas une légende galloise, c'est effectivement une facette bien réelle, mais je dirais pas tout à fait surprenante, car en 1704, le poète Alexander Pope écrivait que Shakespeare avait écrit plus pour le gain que pour la gloire. Et l'argent, c'est vrai, constituait pour l'auteur une dimension essentielle.
Et ma thèse, c'est que William, en allant chercher fortune à Londres, en quittant femme et enfants, désirait en réalité venger son père, John Shakespeare, qui était un homme d'affaires à succès, qui était venu s'installer à Stratford après avoir quitté le petit bourg de Snitterfield. Et il avait monté à Stratford une affaire d'artisans et de commerçants gantiers avant d'être élu maire de la ville, donc le premier personnage de Stratford. Mmh. Et ce même John avait vu son étoile considérablement pâlir, puis décliner pour des raisons mystérieuses. Il avait en fait été sévèrement mis à l'amende pour un commerce illégal de laine qu'il n'avait pas le droit de pratiquer selon les lois en vigueur. Mais c'est probablement pour sa foi catholique qu'il a le plus durement payé. Il était ce qu'on appelait alors un recusant, c'est-à-dire un réfractaire. Donc, il y avait certainement chez Shakespeare un appât du gain, mais aussi un désir aussi incoercible qu'incontestable de laver l'honneur familial.
Mais alors, la thèse qu'on a évoquée tout à l'heure, éventuellement d'une faute d'inattention, ne tient pas une seconde. Il faisait tout ça en conscience, Shakespeare. C'était quand même un filou vis-à-vis des impôts.
C'est probable, car il est récidiviste, effectivement. Tout ce qu'on sait, c'est que William Shakespeare est cité dans un premier document qui est daté de 1596 comme redevable de la somme de 5 shillings, une somme quand même importante. Il faut savoir qu'il s'agit d'une contribution exceptionnelle qui était votée par le Parlement à la demande de la reine pour financer sa guerre aux Pays-Bas contre l'Espagne. On sait qu'en 1597, donc l'année suivante, Shakespeare avait toujours pas payé. On lui réclame à nouveau la somme de 13 shillings et 4 pence dans le cadre d'une seconde contribution exceptionnelle votée en 1597. Et là encore, impossible pour le fisc de collecter cet impôt. Et donc on inscrit Shakespeare sur une liste de récalcitrants. Le pipe roll.
Oui, mais il y a tout de même une chose, c'est-à-dire voilà un garçon qui refuse de payer les shillings qu'on lui réclame, mais qui note scrupuleusement sur des tablettes ce qu'on lui doit, quand, comment, il prête à gage. Enfin, c'est quand même un homme d'affaires redoutable.
Oui, c'est certainement un homme d'affaires et quelqu'un qui ne faisait pas beaucoup de cadeaux. Et je sais que un dramaturge, homme d'affaires, businessman, choque en France. On est habitué à des écrivains comme Racine, Bolière, Corneille, qui vivent en fait de la pension royale. Rien de tel à l'époque à Londres, parce que même si la troupe de Shakespeare pouvait être invitée à jouer à la cour ou chez les grands seigneurs, cela restait notoirement insuffisant pour vivre. Et donc Shakespeare et sa troupe avaient monté tout un système d'actionnariat où les associés, étaient une dizaine, les acteurs de la troupe, se partageaient les bénéfices des représentations une fois les frais déduits. Et donc le dramaturge pouvait jouer sur plusieurs tableaux, l'écriture des pièces, les interventions en tant qu'acteur et metteur en scène, comme directeur de troupe, impresario, etc. Par contre, il n'y avait rien à attendre du côté des droits d'auteur, car ils n'existaient pas à ce moment-là.
Oui, ce que vous nous dites, si vous voulez, c'est que finalement, à l'époque, en Angleterre, on était obligé d'être un businessman quand on montait des pièces de théâtre. On ne pouvait pas se contenter d'être un pur artiste, quoi.
Exactement, mais c'est toujours le cas. Vous savez, les subventions en Angleterre, c'est pas du tout la France. Il n'y a pas de régime des intermittents.
Alors, François Larocque, l'argent comptait dans la vie de Shakespeare, on l'a compris. Est-ce qu'il a aussi une place importante dans l'œuvre de Shakespeare, l'auteur, maintenant?
L'argent, oui, c'est indéniable. Il occupe une place tout à fait considérable. Une place, je dirais, au moins aussi importante que le sexe, dont on a beaucoup parlé, qui est source d'innombrables jeux de mots. On trouve l'argent est partout, même dans la poésie, dans les sonnets. Je vous en donne un seul exemple. À la fin du Marchand de Venise, Lorenzo déclare à Portia, qui vient de lui annoncer que lui et son épouse Jessica vont hériter de tous les biens qui ont été confisqués au père de cette dernière, le juif Shylock. Voici ce qu'il lui dit. « Fair lady, you drop manna in the way of starved people. » C'est-à-dire, jeune dame, vous répandez la manne sur le chemin de personnes affamées. Alors évidemment, on voit là une allusion à la Bible, dans l'épisode de la Bible où la manne avait servi à nourrir les Hébreux dans le désert. Mais ce que le français ne rend pas, il ne peut pas rendre, c'est le jeu de mots essentiel et révélateur, à mon avis, sur manna et money.
Oui.
Vous voyez, donc il y a presque quelque chose d'un petit peu blasphématoire, là. la Bible, voilà, est moins importante que l'argent. En tout cas, il y a cette double face dans la comédie.
Vous êtes actuellement en train d'écrire une biographie de Shakespeare, vaste entreprise.
Oui.
Est-ce que vous creusez, non pas
pour enterrer les fonds, non, ça on ne vous accuse de rien.
Vous creusez la question de l'argent ou c'est pour vous quelque chose de purement anecdotique dans une biographie de ce géant qu'est William Shakespeare?
Non, ça n'est pas anecdotique du tout. Je dirais que c'est vraiment le nerf de la guerre, l'argent. Bien entendu, il y a l'œuvre, il y a les mots, il y a la langue. Mais l'argent, c'est un fil conducteur dans cette biographie du dramaturge dont on ne sait pas énormément de choses.
Oui, hein, c'est ça, parce que je rappelais qu'il y a eu des zones d'ombre. Mm. Il a disparu des radars à un moment, hein, quand même.
Il y a eu toute cette période, effectivement, de 1585 à 1592. Tout ce que je peux vous dire à ce stade, c'est qu'il faut probablement chercher du côté des affiliations catholiques de la famille de Shakespeare, à un moment où les catholiques et les jésuites en particulier étaient victimes de persécutions de la part de, du Premier ministre Robert Cecil, qui était le maître espion d'Elisabeth.
Et puis alors, dans tous les châteaux anglais, on a de priest hole.
Les priest holes, c'est ça. Qui, où les,
c'est,
où les,
c'est les trous du
prêtre. Enfin, oui, oui. Ils pouvaient se cacher quand il y avait une descente de police ou d'espions. Donc, non, on ne rigolait pas avec ça. Et lorsqu'ils étaient arrêtés, je pense à Thomas Campion, par exemple, ils étaient torturés sévèrement à la Tour de Londres et puis ensuite pendus, dépendus, éviscérés, démembrés. Enfin, c'était absolument affreux. Quoi.
Écoutez, en tout cas, on vous écouterait pendant des heures.
On termine sur cette note poétique.
Mais c'est vrai qu'on vous écouterait pendant des heures, François Larocque. En tout cas, je renvoie à la lecture de votre dictionnaire amoureux de Shakespeare, publié chez Plomb, et on attend avec impatience la sortie de la biographie que vous êtes en train d'écrire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci beaucoup Stéphane, merci Mathieu.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces stars qui ont fraudé le fisc. Après Al Capone et William Shakespeare, Mathieu, vous nous racontez l'histoire à 99% vraie de Fan Bingbing, la plus grande actrice chinoise qui, durant l'été 2018, a tout simplement disparu. Elle aurait été enlevée, puis séquestrée par le gouvernement chinois avant de réapparaître quelques mois plus tard et de faire son mea culpa.
Voilà de graves accusations, Stéphane Bern. Je vous en laisse l'entière responsabilité. Pour ma part, je préfère utiliser le conditionnel, car je ne tiens pas à ce qu'on me retrouve mon corps fondu dans le ciment de nos voisins de chez Lafarge. Et j'ai, je le rappelle, le plus grand respect pour le Parti communiste chinois. Quand il a su que je préparais cette chronique sur la détention polémique de Fan Bingbing, l'ambassadeur de Chine à Paris m'a d'ailleurs laissé un très gentil message. Si toi, te moquer justice chinoise, nous prendre couille à toi et faire rouleau de printemps avec. C'est donc avec des pincettes, voire même avec des baguettes, que je vais prendre ces accusations concernant la détention soi-disant arbitraire de Fan Bingbing, l'actrice chinoise la plus célèbre au monde, en posant d'abord cette simple question, Stéphane, que vous souleviez d'ailleurs hors antenne, quelqu'un qui s'appelle Bingbing, peut-il être vraiment innocent ? On va donc parler fraude fiscale, il se trouve que je m'y connais un petit peu, puisqu'un de mes meilleurs amis, justement, exerce la belle profession de contrôleur des impôts, je l'embrasse. Je vous révèle donc une des techniques qu'ont les agents du fisc pour repérer ceux qui leur mentent durant un contrôle fiscal. Figurez-vous que souvent, durant le rendez-vous, la perquisition, ils chantonnent ou ils sifflent. C'est, paraît-il, un réflexe. Nous allons donc procéder à un test rapide autour de la table. Olivier, vous êtes en règle avec le fisc ?
La 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 la.
Stéphane, rien à vous reprocher ?
À la queue le.
Parfait, David, vous, pas d'irrégularité dans vos comptes ? Bien, merci d'avoir joué franc jeu. C'est ce qu'aurait dû faire d'emblée Fan Bingbing, icône déchue du cinéma chinois. Avant d'oublier de cocher la case de F de sa déclaration de revenus 2017, Fan était la plus belle, la plus grande, la plus célèbre chinoise au monde. Une fortune estimée à 100 millions de dollars, près de 63 millions d'abonnés sur Weibo, le Twitter chinois. Une success story comme le parti les adore. Née en 81, elle grandit dans un port de pêche faisant face à la mer Jaune, Yantai, une ville éminemment romanesque puisqu'elle est jumelée avec Quimper. Ses parents sont deux artistes modestes mais qui ont le bon goût d'être membres du comité du parti. Repérée par une prof de collège, Fan est encouragée à suivre une formation dans une école de musique. Mais à 14 ans, elle décide qu'elle veut être actrice. Direction une école de théâtre de Shanghai. À 16 ans, un producteur, Gérard Louvain, la remarque et elle décroche un des rôles principaux dans la série costumée My Fair Princess. My Fair Princess, série qui porte la notion de kitsch à un niveau jamais vu auparavant. C'est pourtant un fan de Maggie qui vous parle. Les Chinois adorant le kitsch... Pardon, les Chinois adorant les séries costumées de qualité, Fan devient rapidement la chouchoute de tout un pays. Et c'est pas volé, hein. My Fair Princess, c'est très bien joué. L'hystérie Bingbing peut commencer. La légende raconte qu'il est impossible de faire un selfie avec elle car elle aspire toute la beauté. Stéphane, ça vous arrive souvent d'aspirer la beauté quand vous faites un selfie avec quelqu'un ? Vous aspirez
non,
vous aussi ?
Moi, j'aspire rien
vous
du
aspirez
tout.
Pas, non, moi
j'aspire
non plus.
À la beauté, mais c'est trop tard.
Mais la beauté ne vous aspire pas. Non. Fan, en tout cas, en a de plus en plus. Elle enchaîne les blockbusters chinois et apparaît même dans des grosses productions américaines comme Iron Man 3 et X-Men. Résultat, 20 ans de carrière et près d'une centaine de films et téléfilms. Pourtant, soudain, en juillet 2018, Fan Bingbing disparaît des écrans. Ses proches, qui jouent très bien eux aussi, sont paniqués.
Ouh, où êtes-vous? On vous cherche partout.
Jusqu'au mois d'octobre 2018, personne ne sait où est Bing Bing. Où est-elle donc, sacre bleu? En résidence ultra surveillée, comme l'affirment les détracteurs du régime, ou bien chez Stéphane Bern à Paros, où elle aurait passé l'été à se la coller à Louzeau, tout en préparant des rouleaux de printemps à Stéphane pour l'apéro.
J'ai jamais remarqué qu'il y avait des vermicelles à l'intérieur.
Le mystère reste entier, même si cette absence semble bel et bien liée quand même à un terrible scandale financier. Scandale dénoncé quelques mois plus tôt par Kui Yong Yuan, un journaliste lanceur d'alerte, qui s'est procuré le contrat que Fan a signé pour le tournage d'un film, Cell Phone 2, qui est la suite de Cell Phone, comme vous l'avez deviné. Comme on peut s'y attendre, l'actrice la plus célèbre du pays a négocié un salaire conséquent, 7,8 millions de dollars. Jusqu'ici, rien d'anormal, sauf que Yong Yuan s'est procuré une autre version du contrat. Celle qui a été communiquée aux autorités fiscales. Et le salaire déclaré, écrit noir sur blanc, est de seulement 1,5 million de dollars. Pas besoin d'avoir un bac S pour se rendre compte qu'il y a une couille dans le potage, ou plutôt un gyoza dans le ramen. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe. Fan a délibérément menti sur son salaire et sa fraude vient d'être exposée au grand jour. Très vite, l'opinion publique bascule.
Ta, c'est quoi cette merde là?
Se disent les Chinois. Aux États-Unis, que Julia Roberts empoche 20 millions de dollars par film, ça fait jaser, mais ça ne bouleverse pas. En Chine, où le travailleur moyen gagne 10 000 dollars par an, les 7,8 millions de fans ne passent pas. Acculé, Fan fait profil bas, sa boîte de prod dément les accusations, mais le fisc chinois ouvre une enquête et les conséquences se font vite sentir. La valeur de l'action de ces sociétés est en chute libre et ses sponsors commencent à prendre leur distance. Pendant ce temps, Fan tente de faire comme si tout allait bien. Elle suit son emploi du temps, voyage au Tibet pour une œuvre de charité, concert de Céline Dion à Vegas. Mais soudainement, début juillet, elle annule à la dernière minute une réunion. Elle vient d'être assignée à résidence par les autorités. Peu de temps après avoir prévenu ses collaborateurs, elle cesse toute communication et ne donne plus aucun signe de vie. Deux jours plus tôt, la réalisatrice Li Yu dîne avec elle et se souvient que lors du trajet retour en voiture, Fan lui a pris la main et l'a serré très fort. Oui, vraiment hyper fort, ce qui n'était jamais arrivé en 12 ans d'amitié. Fan disparaît donc en juillet puis ressurgit 4 mois plus tard. On apprend qu'elle était sous RSDL. Residential Surveillance at a Designated Location, en résidence surveillée dans un lieu choisi par le gouvernement. Donc, et ce qui n'est pas la même chose qu'être assignée à résidence, car Fan n'est pas restée chez elle. Elle aurait été emmenée dans un resort de vacances près de la ville de Jiangsu. Pourquoi un resort de vacances? Une sorte de traitement VIP, personne ne sait vraiment. Alors VIP c'est relatif, hein, parce que dans le cadre d'une RSDL, il n'est pas possible de communiquer avec ses avocats ou des membres de sa famille pour obtenir de l'aide. Fan s'est même vu privé de son portable. Pire, les conditions même de cette détention flirtent avec l'illégalité. Selon la loi, la RSDL peut être appliquée dans des circonstances suivantes. Lorsque le suspect n'a pas de résidence fixe ou dans des cas impliquant une menace à la sécurité nationale, des faits de terrorisme ou de corruption engageant des sommes très élevées et que la simple assignation à résidence entraverait le bon déroulé de l'enquête. Selon le gouvernement chinois, il s'agit d'une enquête ordinaire pour évasion fiscale d'une personne aisée. Je vous laisse imaginer ce que ça doit être une enquête ordinaire pour une personne pauvre. Je plaisante, tout s'est fait dans les règles. La procédure a été parfaitement respectée, pas de problème. Preuve de l'infinie mensuétude du régime, lorsque Fan Bing Bing est libérée, on lui rend son téléphone portable. Elle a 17 788 mails non lus, mais son premier réflexe, c'est de se connecter immédiatement sur Weibo. Et c'est là, c'est un torrent d'excuses qu'elle déverse à ses millions d'abonnés. Elle demande pardon à ses fans pour les avoir déçus et pour avoir commis d'aussi graves erreurs. Elle reconnaît avoir donné le mauvais exemple en tant qu'actrice et personnalité publique et qu'elle n'est plus que regret et douleur. Après s'être flagellée, elle termine par un petit éloge du gouvernement chinois, ça passe toujours bien. Sans le parti et l'État, sans l'amour du peuple, Fan Bing Bing n'aurait jamais existé, écrit-elle. C'est beau, c'est patriotique et plus important que tout, c'est spontané. Alors oui, le gouvernement chinois a certainement retenu Fan Bing Bing contre son gré dans un cadre moyennement légal, mais je pose la question. Est-il le seul à agir ainsi? Nous-mêmes, dans cette émission, sommes-nous irréprochables en la matière? À entendre la réaction paniquée de certains de nos invités hors antenne lorsqu'ils comprennent qu'ils sont bloqués deux heures avec nous, il faut croire que la frontière entre invitation et séquestration est parfois floue.
C'est à quelle heure là?
Là, ça va pas tarder, c'est dans vrai. Une demi-heure.
Moi, je dois rester avec vous encore une demi-heure, c'est ça?
Je sais pas si on a encore des trucs.
C'est un plaisir d'être avec vous, hein, ne croyez pas.
Notre problème, Stéphane, c'est qu'on est trop coulant avec les invités. Parfois, je me dis qu'on devrait s'inspirer plus du régime chinois.
Vous avez raison, c'est. On est bien gouverné là-bas. Regardez Covid.
Évidemment, ils n'en ont plus.
Alors que nous.
Que fait votre ami Macron?
C'est pas mon ami, mais je reconnais que là-bas, c'est un pays bien gouverné. Oui.
Ça plaisante pas.
Ça plaisante pas. Pour le fils comme pour la maladie. Bon, merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour.
Au revoir, gentil fraudeur.
Et nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, dédiée non pas à un retour vers le futur, mais plus modestement vers le présent.
Et le présent, c'est indéniablement les macarons. Olivier Pouls, l'histoire de ce petit gâteau aujourd'hui.
Et une recette aussi en cadeau.
Le mot de la fin reviendra à Stéphane Bern, qui nous parle aujourd'hui, c'est pas bon, c'est une expression, mais oui, ça désigne quelque chose de concret.
Exactement, quand on voit quelqu'un qui a les dents écartées, les deux dents devant, on dit qu'il a les dents du bonheur. Pourquoi on dit qu'il a les dents du bonheur ?
C'est une bonne question à laquelle vous répondrez en fin d'émission. Mais d'abord, nous partons aux origines d'un objet, d'une invention. Aujourd'hui, l'open space.
L'open space. J'ai travaillé, moi, pendant 5 ans dans une entreprise qui s'appelle l'agence Kappa, qui produit des choses pour la télévision. Et pour des raisons un peu bizarres que personne n'avait vraiment décidé, j'avais le meilleur bureau de tout l'étage. C'était une pièce de 15 mètres carrés avec un canapé, un panier de basket, oui, une table pour manger, une barre de traction, deux grandes fenêtres, des fauteuils.
Une barre de traction qui, évidemment, n'a pas beaucoup servi.
N'a pas beaucoup servi, effectivement. Mais d'autres pouvaient, mes invités, me dire, faut faire de la barre de traction chez moi. Mais bien sûr, c'était une anomalie que j'ai ce bureau parce que j'étais pas un employé particulièrement important. Et un jour, en fait, il s'est passé ce qui devait se passer. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que c'était chelou, que j'ai un bureau de cette taille, alors que les rédacteurs en chef de l'émission pour laquelle je travaillais, ils étaient à deux dans un bureau deux fois plus petit. Moi, j'avais zéro argument pour défendre ma position. Alors, j'ai dû renoncer à mon privilège et retourner dans l'open space avec la piétaille. Et là, j'ai vu la différence. Et la différence, elle venait du fait qu'on me voyait. Pas possible de se cacher derrière l'écran de son ordinateur dans l'open space, pas possible de faire une petite sieste sur le canapé, pas possible de passer sa journée sur Facebook. Et donc, depuis ce moment-là, j'aime plus trop l'open space et ça m'a donné envie de savoir depuis quand est-ce que ça existait. Eh bien, depuis assez longtemps, en fait, puisqu'il y a des gravures des 18e et 19e siècles en France et en Angleterre où on voit des gens qui travaillent dans ce qui ressemble complètement à des open space.
Ça s'appelle une usine.
Non
une blague de droite. Très drôle.
Je vous parle de travail de service qui consiste à gérer des papiers, etc., des trucs tout à fait conformes.
Dans les banques, dans
Exactement, et dans la poste, tout ça. Mais disons que ça n'avait pas été vraiment théorisé, l'open space, avant le 20e siècle. Et le 20e siècle, niveau design de bureau, c'est vraiment une grande bagarre, si vous voulez, entre l'open space et le pas open space. Le premier designer de l'open space moderne, c'est peut-être l'architecte le plus connu du monde.
Philippe Starck.
Ouais, en France, ça, mais sinon dans le monde, c'est plutôt Frank Lloyd Wright, qui a dessiné un open space de très très grande beauté en 1939 pour l'entreprise Johnson Wax. Johnson Wax, j'aime bien dire ce que c'est les entreprises, ils sont connus en particulier parce que c'est eux qui font des pesticides ménagers comme le bégon ou le raid, c'est Johnson Wax. Et l'open space du siège social de Johnson Wax, il existe toujours et il ressemble, c'est très très beau, il ressemble à une forêt de 10 mètres avec des colonnes qui ressemblent à des arbres. Il y a plein d'espace entre les bureaux, c'est hyper beau à voir, c'est vraiment un open space dans lequel on a envie de travailler.
C'est-à-dire qu'il est mieux que celui qu'on a à Europe 1 ?
Il est un peu mieux. Et puis cet open space, disons, réussi, il a été réinterprété par d'autres architectes et dévoyé au passage. Et on s'est retrouvé avec des espaces de travail typiques du folklore des 30 Glorieuses, vous voyez, où on voit des grandes salles avec des bureaux gris à perte de vue et des machines à écrire dessus, un peu triste et un peu dégueu, même si le côté vintage aujourd'hui peut lui donner un petit charme pour certains. Et puis là est intervenu un monsieur qui s'appelle Robert Probst. Robert, il a créé ce qu'il a appelé l'Action Office. L'Action Office, le bureau centré sur l'action. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a divisé l'open space en espaces modulables avec des cloisons courbes et très jolies à voir. Donc, en tant que patron, vous pouviez dessiner l'espace de travail parfait en mettant une mini salle de réunion dans un coin, un couloir qui relie deux espaces où des équipes qui doivent se parler travaillent. C'était très beau à voir. C'est une sorte de semi-open space, si vous voulez, intelligent et super beau avec un côté James Bond très beau. Mais de la même façon que le bel open space de Frank Lloyd Wright, il a été dévoyé, l'Action Office de Probst, il a été dévoyé aussi. Et c'est devenu en quelques années le fameux bureau à cloisons. Vous savez, ces espaces compartimentés par des cloisons qui vous cachent quand vous êtes assis et au-dessus desquels vous pouvez voir quand vous êtes debout.
Bien sûr.
Et en anglais, on appelle ça des cubicles. Et c'est devenu le symbole de la tristesse du travail de bureau dans les années 80 et 90. Mais à partir des années 90, on a eu tendance à revenir à l'open space sous l'impulsion des entreprises de la tech. Avec un petit truc nouveau quand même, c'était de supprimer les bureaux fermés dans lesquels les chefs étaient restés jusqu'alors et d'asseoir les chefs au milieu de l'équipe, dans l'open space. C'est un peu ce qui se passe à Europe 1.
Se passe à Europe 1 pour ce qui concerne notre émission.
C'est pas toujours comme ça.
Il reste quelques petits bureaux.
Stéphane Bern n'a pas de bureau particulier.
Mais Stéphane est d'une simplicité.
Tout à fait. Benjamin Delsol, le rédacteur en chef, n'a pas petit bureau.
Il est au milieu de tous ensemble.
Quelle grande simplicité. Et toutes ces entreprises de la tech, donc, elles ont mis en avant un argument, Google en premier. L'open space, c'est mieux parce que ça permet aux gens de communiquer. Or, c'est en communiquant qu'on a de nouvelles idées.
Mais il y a plusieurs
qu'on
études.
Perd du temps, qu'on perd trop de temps à faire des blagues.
Il y a plusieurs études qui ont montré que ça, c'était des conneries. Mais en fait, en 2018, il y a une étude de l'université d'Harvard qui a montré que les employés dans les entreprises qui utilisaient l'open space, ils passaient 73% moins de temps à se parler en face à face que dans les entreprises qui utilisaient le bureau compartimenté. Et que ces interactions en face à face, elles étaient remplacées par des emails et des messages. Quand on est en open space, on se parle moins. Mais bon, ça fait longtemps qu'on soupçonne très fort une autre raison au succès du récent de l'open space, c'est le fait que ça coûte moins cher.
Ah oui, bien sûr.
Mais oui, quand on met plus de gens dans moins d'espace, eh ben on a besoin de moins d'espace et donc on fait baisser les loyers. Et le passage à l'open space, il a comme ça fait économiser des centaines de millions de dollars de loyers aux entreprises du monde. Mais aujourd'hui, disons que dans la pointe du design de bureau, il y a deux tendances qui se dessinent. La première, c'est de faire des bureaux qui soient complètement hybrides, avec plein de recoins, des tables où on peut travailler debout, beaucoup moins de place à titrer aussi. Et l'autre tendance, bien sûr, c'est l'absence de bureaux. Parce que le Covid a montré qu'on pouvait tous travailler chez nous sans que ça pose de problème majeur. En tout cas, moi, j'ai une petite requête que j'aimerais bien transmettre à la direction. Ça me ferait quand même vachement plaisir si à Europe 1, je pouvais avoir un bureau fermé avec un canapé.
Pas des baskets.
Voilà, si vous pouvez intercéder en ma faveur, Mathieu, ce serait super.
Ça serait bien de travailler votre shoot, je crois que vous en avez besoin, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit.
Pic.
Eh oui, bien sûr. C'est une belle chronique.
Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site Europe 1.fr.
Et maintenant, l'heure de la distribution de macarons a sonné. Mais d'où vient le macaron, ce petit gâteau gourmand? Olivier Pouls nous le raconte.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
C'est plutôt un bec salé qu'un bec sucré. J'adore ces expressions, donc dès que je peux les placer, je les place. Néanmoins, mon cher Olivier Pouls, aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, vous nous racontez l'histoire du macaron que vous détestez dans ses versions salées,
oui.
Et je vous rejoins, mais que vous appréciez visiblement dans ses versions sucrées.
Oui, j'en profite tout de suite pour mettre les choses au clair. Les macarons salés, amis chefs et pâtissiers...
Ça suffit.
Ça n'a aucun intérêt.
Pourquoi cette sentence?
Parce que c'est pas bon et parce que je l'ai décidé.
Voilà. Tout simplement. Et c'est lui qui fait la pluie et beau temps dans la gastronomie française.
Il a raison, ça n'a aucun intérêt.
En plus, si Stéphane...
Alors que le macaron sucré, dans certaines versions, franchement, c'est
la
pas mal.
Rose.
Le macaron nous viendrait probablement du Moyen-Orient, où on avait l'habitude de cultiver de l'amande. Il s'est ensuite installé en Italie au Moyen-Âge, et c'est là qu'il va prendre son nom d'ailleurs, macarone.
Ah.
Alors, il y a une petite légende amusante sur sa forme, je vous la livre. Elle n'a évidemment aucune véracité, mais on prétend que c'était un moine qui avait l'habitude de faire les coques de macarons, qu'il les faisait torse nu, et qu'un jour, alors qu'il était vraiment très fatigué, il se serait affaissé sur la pâte, créant la forme avec son nombril du macaron.
Son nombril ou son
très gros nombril quand même.
Son nombril. Bon, écoutez, ça vaut ce que ça vaut.
On n'y croit pas.
On n'y croit pas trop. Mmh. Bref, il arrive en France au XVIe siècle grâce à Catherine de Médicis.
Encore elle,
évidemment. Petit clin d'œil, en 1682, un peu plus tard, il y a un officier de bouche du nom de Daloyau, figurez-vous, déjà, qui en servait à la cour du roi. Et puis, ce macaron, il va surtout se répandre dans toutes les régions françaises. Et on va en garder, d'ailleurs, des versions différentes. Je crois qu'il existe pas loin de 40 versions ou adaptations.
Il y a des versions qui sont bonnes, qui existent
macaron.
Ou pas
vous avez le macaron de Nancy, par exemple, le macaron de Boulay, qui lui est écrit en 1854. Le macaron de Saint-Jean-de-Luz, avec de la crème de noix, qui a été servi au mariage de Louis XIV et de l'infante d'Espagne. Le macaron de Reims, le macaron d'Amiens, avec des fruits, des amandes et du miel. Bref, il y a plein de versions. Mais la version du macaron parisien, celle qui est connue dans le monde entier, c'est 1830. Parce qu'en fait, à l'origine, le macaron, c'est juste un simple petit biscuit qui est composé de poudre d'amande, de blanc d'œuf et de sucre, mais il n'y a pas la garniture au milieu. Et cette garniture au milieu, c'est 1830, et on la doit à un célèbre pâtissier, Ladurée. C'est lui qui va créer et appeler le macaron parisien, qui ensuite va faire sa fortune et la fortune de bien d'autres. Puisqu'un certain Pierre Hermé, qui a travaillé pour la maison Ladurée, a l'idée en 1996 de créer sa propre maison. Et il va donner une vraie nouvelle impulsion au macaron, parce qu'il va théoriser que on peut venir acheter des macarons comme de la haute joaillerie. Et il va faire rentrer le macaron dans l'univers du luxe, du rêve, en créant des collections, en créant plein de saveurs. Bon, la plus célèbre qu'il a créée, c'est le macaron Ispahan avec rose, framboise et litchi.
Visiblement, c'est celui qu'il faut offrir à Stéphane si vous êtes invité.
Voilà, celui-là est très bon. Celui à l'huile d'olive ou à la vanille. Enfin bref, il y a toute une série. Et il va vraiment donner ses lettres de noblesse au macaron. Puis bien évidemment, plein de gens vont s'en inspirer. Et puis, maintenant, même le dernier des petits pâtissiers ou boulangers de coin de rue fait ses macarons.
Mais ce que vous nous dites et qui est fou, c'est qu'on peut faire le macaron chez nous.
Soi-même. Oui.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les macarons, en fait, toutes les coques sont absolument identiques. Elles ont le même goût. Le goût ne vient jamais de la coque.
Non.
Elles ont des couleurs différentes à cause des colorants alimentaires. Mais il y a une seule et unique recette pour faire les coques. Les coques sont standards. Si vous détachez la coque, que vous grattez, que vous enlevez tout ce qu'il y a au milieu, vous goûtez les coques, les yeux fermés, sans tenir compte de la couleur, ce sont toutes rigoureusement
incroyable.
Les mêmes.
Si on faisait, alors, passez-nous les macarons, on va faire un essai.
Oui, s'il vous plaît. Vous les avez apportés, bien
non,
sûr.
Non, mais par contre, ce que je peux vous donner, c'est la recette pour réaliser ces coques. Alors, je la mettrai évidemment sur europe1.fr. Il vous faut un temps pour temps de poudre d'amande, de sucre de glace et de sucre semoule. 100 grammes à chaque fois, 75 grammes, alors là, il faut être précis, de blanc d'œuf. Et pour faire des macarons, il faut peser les blancs d'œufs. Je ne vous dis pas 4, 5 blancs d'œufs, parce que les blancs d'œufs ont des tailles différentes suivant la taille de l'œuf. Donc, c'est 75 grammes de blanc d'œuf, 25 ml d'eau, et puis un petit peu de colorant alimentaire pour donner la couleur que vous souhaitez à votre macaron. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mixer la poudre d'amande et le sucre glace. On va mettre l'eau et 100 grammes de sucre dans une casserole qu'on va porter à ébullition. Il faut être un peu au-dessus, d'ailleurs, il faut être à 118 degrés, ce qu'on appelle réaliser un sirop. On monte les 40 grammes de blanc en neige avec 20 grammes de sucre dans un robot, et puis tout en continuant à tourner, on va venir verser notre sirop par-dessus, on va rajouter les blancs qui restent, on va rajouter la poudre d'amande, et on va former des petits disques qu'on va ensuite cuire dans le four, 13 minutes à 150 degrés. On va les laisser reposer après, et on va les garnir. Mais pour plus de détails, europe1.fr, il y a tout le pas à pas très précis pour réaliser ces coques. Et après, ben, les coques, vous les garnissez ce que vous voulez. Vous pouvez faire des ganaches, vous pouvez mettre de la confiture, vous pouvez vous amuser. Mais pas de foie gras et de truffes, s'il vous plaît.
Jamais. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte sur Europe 1 de 11h à 12h30. Pour croquer dans le macaron, quoi de mieux qu'avoir les dents du bonheur, Stéphane? C'est l'expression que vous nous racontez aujourd'hui.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Attention, montrez-moi vos dents tous. Personne n'a les dents du bonheur autour de cette table. Mais d'où vient cette expression, Stéphane, avoir les dents du bonheur? C'est votre mot de la fin.
Oui, pourquoi quand on a les incisives du haut particulièrement écartées, on parle des dents du bonheur? D'ailleurs, il y a un nom scientifique pour cette caractéristique, un diastème, du grec diastema qui signifie intervalle. On dit que ça a les dents du bonheur parce que ça porte chance. Mais ils sont nombreux. Yannick Noah, Vanessa Paradis, William Lemergy, Laurent Voulzy, Jane Birkin, Béatrice Dalle, Mike Tyson.
Il a encore des dents, lui.
Oui, c'est ça qui est miraculeux.
Il n'est pas toujours de bonne humeur. En fait, l'expression date des guerres de Napoléon. Les soldats devaient tenir de leurs deux mains de lourds fusils et ils n'avaient que leurs dents pour déchiqueter l'emballage papier dans lequel il y avait la recharge de poudre. Il fallait une mâchoire en parfait état de marche et ceux qui avaient les dents gâtées ou même écartées étaient déclarés inaptes au combat, réformés de rechef. Quelle joie de ne pas aller au front, voilà pourquoi quand on était réformé parce qu'on avait les dents écartées, on appelait ça avoir les dents du bonheur. Allez, terminons par une citation dentaire et néanmoins terrible d'Alexandre Dumas. « L'homme naît sans dents, sans cheveux et sans illusions, et il meurt sans cheveux, sans dents et sans illusions.
» Toujours très feel good, Alexandre Dumas, sur ce coup. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce mot de la fin très instructif. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Un numéro destiné à vous amuser, à vous instruire, mais surtout à mettre en garde, Stéphane, concernant le jeu dangereux de l'optimisation fiscale.
Je vous le dis,
attention.
Arrêtez vos combines.
Je n'ai aucune combine, Stéphane.
Pensez à ce qui est arrivé à Bing Bing.
Oh, pauvre Bing Bing, heureusement.
Vous allez peut-être disparaître, et moi, je finis comment, la saison tout seul?
Ça serait terrible, Stéphane. Non,
on sera là,
pas.
Stéphane, on sera là.
Oh, vous êtes là, heureusement. Lequel de nos fraudeurs, finalement, aujourd'hui, vous a l'inspiré le plus de sympathie? Est-ce que c'est Al Capone, Shakespeare ou ma Bing Bing?
Écoutez, non, Shakespeare m'apparaît de plus en plus comme un sale type.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment décevant. Il faut dissocier l'artiste de l'homme, mais là, quand même, c'est mesquin. Demain, retour vers la légalité, Stéphane?
Oui, évidemment, Mathieu, demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.